Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Tonnerre ! Sortez tous !
C'est le réveil du tigre.
Sortez ! Laissez-moi seul avec cet homme !
Pire, on va retrouver le gâchis.
J'en meurs des fois.
Des miettes de cadet.
Malheur. Embrasse-moi, monsieur.
Very often, the screenwriters are forgotten, are ignored. They are like shadows passing through history of cinema.
Très souvent, les scénaristes sont oubliés, ignorés. Ce sont des ombres qui traversent l'histoire du cinéma. Mais l'ombre de celui qui prononce ces mots serrant chaleureusement l'Oscar d'honneur remis en 2014 à Los Angeles pour l'ensemble de sa carrière recouvre des vallées entières de bobines plutôt difficiles à ignorer. Pour cette dernière émission de l'année, chers auditeurs, chères auditrices, déroulons le tapis rouge pour le Ganesh de la cinéphilie mondiale, Jean-Claude Carrière, 88 ans, qui se dessine parfois sous les traits de l'éléphant dieu hindou de la sagesse et de la prudence, patron des écoles et des travailleurs du savoir. Barrisson de joie, oui, devant l'homme péninsule qui eut le nez creux de transposer à l'écran en vers le panache épique de Cyrano de Bergerac. Faisons une haie d'ivoire aux disciples de Tati, aux gagman de Pierrette, aux collaborateurs fraternels de Louise Buñuel sur Belle de Jour, le charme discret de la bourgeoisie ou cet obscur objet du désir. Tapons des pattes pour le co-auteur de Borsalino ou de La Piscine pour Jacques Deray, ce dramaturge, romancier, essayiste, traducteur et acteur d'occasion, auteur de chansons ou de livrets d'opéra, cet inventeur de légendes indiennes qui travailla avec Peter Brook, Godard, Ferreri ou Oshima, qui offrit à Nicole Kidman le perturbant Burf en 2004 ou servit à Jean Rochefort son dernier grand rôle dans L'Artiste et son modèle en 2012. Ouvrons grand nos oreilles grises à ce fils de viticulteur de l'Hérault qui participa à l'écriture de deux Palmes d'Or, Le Ruban Blanc de Michael Haneke en 2009 et Le Tambour de Volker Schlöndorff en 1979, ce cinéaste allemand voyant en lui l'équivalent d'une sage-femme pour réalisateur. On peut toujours tout expliquer. C'est pourquoi, sans doute, il faut s'en priver. Conseil avec malice Jean-Claude Carrière dans son dernier ouvrage en date, le très didactique Atelier, au pluriel, paru il y a peu aux éditions Odile Jacob. Recueil de notes concrètes et pratiques sur plus de 65 ans d'écriture que nous allons traverser le temps d'une masterclass radiophonique en deux épisodes d'une heure. Personne ne peut dire, ni même espérer, que quelque chose restera de son travail, affirme-t-il à la fin de son livre. Au moins aurais-je connu, à partir d'une enfance paysanne des plus modestes, une vie d'imagination, de surprises, de rencontres inespérées, de voyages dans le temps et l'espace, d'amour rêvé, de crimes impunis. Un livre n'est pas une vie, mais au moins laisserai-je derrière moi, dans mon territoire, d'un atelier à l'autre, un sillage multiple, zigzagant, que le temps ne manquera pas d'effacer quand il lui plaira. Mais qu'il attende un peu, je travaille encore. Bonjour, c'est Richard Guettet. Bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 13h. Bonjour, Jean-Claude Carrière.
Et bonjour, comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Assez bien pour le moment.
Que faisait Buster Keaton quand on lui présentait un micro ?
Alors, il en faisait plusieurs objets. En particulier, il en faisait un rasoir électrique. Il se rasait comme ça en public.
Avec le micro.
Ou autre chose, avec le micro.
Au début de votre livre Atelier, il y a ce conseil essentiel formulé par ses maîtres et amis avec lesquels vous avez démarré, les rois du gag, les clowns impériaux, les cinéastes Jacques Tati et Pierre Etex. Ils vous ont donné, dites-vous, vos premières leçons de regard. Il faut faire confiance à la rue. Si on sait regarder, il se passe 1000 choses en une heure, paroles, gestes, situations, qui pourront donner lieu plus tard à des scènes, à des répliques.
C'est un livre contre l'inspiration.
Contre ?
Ah ouais. Oui, c'est-à-dire l'idée que l'artiste se met comme ça à rêver de manière romantique et que les idées viennent à lui, c'est pas du tout le cas dans les arts du spectacle. Du tout. Il faut vraiment avoir l'œil constamment ouvert sur ce qui est autour de nous. Moi, je vous regarde en ce moment, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux en tirer, quoi.
Alors, justement.
Et ainsi de suite. La vie est infiniment plus riche et plus inventive que nous. Il y a des choses, il y a des gens qui font des choses que personne n'oserait imaginer.
Ces détails, ces répliques, ces images, ces attitudes que vous offre le hasard, quand on sait les observer, vous les notez depuis des années dans des carnets, vous en avez peut-être une centaine.
Une centaine, oui, oui.
Vous accumulez.
Et je continue,
ouais.
Comme si ma vie était encore longue.
Vous accumulez aussi des histoires notées sur des petits bouts de papier depuis que vous avez 20 ans, qui sont toutes rassemblées dans une boîte dans laquelle, ou dans un sac, dans laquelle vous piochez.
Alors, vous savez la mauvaise nouvelle ?
Non.
C'est que j'ai perdu la boîte.
Mais c'est pas vrai !
Mais si. Je la cherche depuis que j'ai écrit le livre où je dis ça, je cherche cette boîte et je la trouve pas.
Malédiction. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie des détectives privés chez vous ?
Oui, peut-être, oui. On pourrait essayer, mais comment décrire cette boîte et surtout, comment décrire ce qu'il y a dedans ?
900 petites histoires notées sur des bouts de papier, j'en cite deux qui sont précisées dans le livre. Un enfant qui pleure sur le trottoir, une tartine à la main, ou un homme corpulent à Bénarès glisse d'une barque et tombe dans le Gange.
Oui, ça m'est arrivé. Ça, c'est une histoire personnelle, oui. Mais par exemple, j'ai vu une fois sur les boulevards de Paris, et ça, je l'ai noté, une femme qui marchait d'un pas vif, un bébé dans le dos, et par-dessus son épaule, elle donnait le biberon au bébé, qui essayait, malgré les secousses de la marche, qui essayait de boire.
Je dois dire que vous imitez vraiment très bien le bébé.
Oui, mais c'est genre parce que j'en suis un. Ouais, et ça, ce genre de choses, c'est des cadeaux de la vie.
Ouais.
Si on ne les voit pas, c'est pas la peine de faire ce métier. Alors, ça peut ensuite se développer, se modifier, s'améliorer. Mais cette image-là, que je n'ai mise nulle part jusqu'à maintenant, reste pour moi extraordinaire.
Cette attention perpétuelle au monde qui vous entoure, en fait, ça ne s'arrête jamais. Dans le métro, vous écoutez les conversations, et quand vous tombez sur un film à la télévision, vous essayez de deviner l'intrigue et ce qui va suivre, voir si la situation est larmoyante, d'imaginer un développement burlesque.
Quand je regarde un film, et que ce film me plaît, parce que ça me plaît beaucoup, je sais pas, un dernier film que j'ai vu, par exemple, était Roma, le film mexicain, qui m'a beaucoup plu, là, je ne fais pas attention à ça, je ne me dis pas, ça aurait pu être fait autrement. Mais quand je vois dans Roma les problèmes qu'a une voiture pour se garer dans une entrée, là, je me réjouis, je me dis, si Tati avait vu ça... Vous savez que Tati est mort à l'hôpital ?
Non, je ne sais
pas. Si, il est mort à l'hôpital, et j'allais le voir jusqu'à la fin. Et il est mort en disant, en appelant l'interne, et en lui disant, il y a une histoire entre l'interne de jour et l'infirmière de nuit.
Ça, c'est la fin.
C'est la fin, après, il est mort après ça.
Magnifique. Construire un gag est aussi difficile que d'allumer un feu sous la neige. La phrase est de vous, c'est très beau.
Oui.
Mais tout est affaire de rythme et les meilleurs gags, dites-vous, sont en trois temps. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de gag en trois temps dont vous êtes directement l'auteur ?
Dont je suis l'auteur, non, mais je vais vous dire. Un gag de Buster Keaton et ses variations, parce qu'on lui posait beaucoup de questions là-dessus, naturellement. Un homme s'avance sur un trottoir. Il marche vers nous. Quelqu'un de droite, disons, et met une peau de banane sur le sol. L'homme glisse et tombe. Ça, c'est le stade numéro 1,
classique,
dont le cinéma, au début, se contentait. Il y a les premiers films de Chaplin où on se contente de ça.
La banane.
Deuxième exemple. Il arrive, la même chose. On glisse la banane, l'homme voit la banane, l'évite, fait un écart et rentre dans un réverbère qui se trouvait là. Mais là, il faut déjà la technique intervient parce qu'il ne faut pas avoir vu le réverbère avant qu'il rentre dedans. Donc, il faut que le mouvement de la caméra soit parfaitement synchrone avec sa démarche. Oui. Troisième exemple. Il voit la banane. Il l'évite, il s'en va. celui qui a placé la banane arrive, déçu. Ça n'a pas marché. Il se retourne, à ce moment-là, il y a un trou d'égout qui s'ouvre sur le trottoir et il tombe dedans.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane.
Éloge de la paresse avec Philippe Catherine et sa banane en version live pianistique. Continuons, nous, à travailler. Jean-Claude Carrière, quand vous écrivez avec Piretex l'un des chefs-d'œuvre du cinéma comique français, Yo-Yo, que j'aime beaucoup, un film sorti en 1964, où l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'un milliardaire ruiné par la crise de 1929, qui s'en va sur les routes avec une écuyère de cire, qu'ils auront un fils, qui deviendra un clown célèbre. Quand vous écrivez Yo-Yo, vous essayez de ne raconter cette histoire qu'avec des gags, et si possible, aussi peu bavard que possible, uniquement visuel, et vous n'avez jamais connu un exercice aussi ardu, aussi aride,
oui, parce que c'est une discipline qu'on s'impose à soi-même. Notre idée était que le film commençant dans les années 25, de façon totalement muette, puis peu à peu les mots apparaissaient, et à la fin le film était dialogué. Il suit que l'histoire du personnage suivait l'histoire du cinéma. C'était ça. Seulement qu'on n'a pas pu y rajouter la couleur. On n'avait pas les moyens.
Un bon gag, c'est aussi le son. Vous en avez fait l'expérience sur le tournage de Mon Oncle, quand Tati vous emmène à l'enregistrement carafe dans son film, une carafe qui doit se casser en tombant sur un carrelage. Mais quand vous arrivez à l'auditorium, voilà ce qui se passe.
Non, c'est-à-dire qu'il m'avait demandé « qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous ?» Ben, je lui dis rien, je vais à la cinémathèque trois fois. Non, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ? Parce qu'un scénariste doit absolument savoir comment ce qu'il écrit va être tourné. C'était indispensable. Ben, je lui dis, je sais rien. Alors, il m'a amené avec lui dans un auditorium où il cherchait un bruit de verre cassé pour la scène de la cuisine dans Mon Oncle. Et il avait, je ne plaisante pas, 10 ou 12 caisses de verre sur le sol de différentes qualités et 10 ou 12 plaques de pierre, de granit, de marbre. Et pendant 2 heures, il prenait très très sérieux, avec un ingénieur du son et une perche, il prenait un verre, attention, paf. Pendant 2 heures, J'étais là comme ça, je regardais, je me disais, mais c'est ça le cinéma? Ben oui, c'est ça. Il cherchait un son qu'il ne pouvait pas imaginer, comme on ne peut pas imaginer le son d'un verre qui se casse, mais qui lui plairait. Et il a finalement trouvé.
Ouais. Sauf qu'une fois, pendant cette session d'essai de bruit de carafe qui se casse, un verre roule jusqu'à vos pieds.
J'ai ri et il m'a regardé très sérieusement, un doigt sur les lèvres, il a fait « Chut !»
On travaille. Le cinéma, c'est sérieux.
Oui, on bosse, oui. Ça n'en a pas l'air, mais c'est très sérieux. Oui.
Jean-Claude Carrière, vous êtes né dans un village de l'Hérault. Votre père était un petit paysan, mais à un moment, il est malade et il ne peut plus travailler. Il vient à Paris en 1945 pour tenir un café à Montreuil. Vous avez 14 ans à l'époque et vous aviez appris tous les travaux de la terre, mais ce café vous fait tomber dans un autre monde en vous donnant une culture argotique, un langage argotique. Vous notiez déjà, adolescent, ce qui vous frappait, ce qui vous amusait ?
En plus, avant ça, ce que vous oubliez de dire, c'est que j'avais passé 4 ans dans un collège religieux. Donc, dans ce domaine-là, des religions et de l'histoire des religions, surtout chrétiennes, la vraie, je suis imbattable. On l'a fait ensuite, la Voie lactée avec Bulbin, on a fait beaucoup de choses. J'ai donné des conférences dans des grands séminaires, j'ai eu des textes publiés dans la revue Études, moi qui suis totalement incroyant. et c'est vrai que là, en arrivant à Montreuil-sous-Bois, je démarque dans... C'est juste après la guerre, hein. Donc il y a des prisonniers qui reviennent, il y a toute une pègre qui se constitue, c'était extraordinaire. Dans un milieu qui m'était... Moi j'étais un tout petit paysan du midi de la France, je ne connaissais rien à rien. J'arrive au milieu de jeunes prostituées, de gitans, c'est là où je fais la connaissance de Django Reinhardt, quand même qui m'a amené un jour dans le métro pour m'inscrire au Hot Club de France. Depuis ce temps-là, je suis Jean Suivant.
Ah oui.
Oui, c'était un changement brutal, mais personne ne peut imaginer, et je n'essaierai même pas de vous le décrire, ce qu'était Paris en 1945. Le 14 juillet 1945, fête de la victoire, parce qu'on venait de gagner, la paix était signée, depuis le mois de mai, on avait gagné, on était vainqueur. C'était incroyable. La joie, partout. Oui, que ça, que la joie. Il y avait des vagues d'avions incessantes qui passaient au-dessus de Paris et qui ramenaient les prisonniers. Oui, qui c'était vraiment formé un sentiment de victoire qui, par la suite, s'est peu à peu, hélas, atténué. Quand on a commencé à voir, et ça c'est l'émotion de ma vie, avec mes copains, on était 3 ou 4, de Montreuil, aux actualités, les premières images des camps de concentration et des camps d'extermination. On était, je me souviens, on ne pouvait plus parler, on ne pouvait presque plus respirer. On se disait, mais ce n'est pas possible que des hommes aient fait ça à d'autres hommes. On croyait que c'était une mise en scène, on croyait qu'on avait beaucoup de mal, on avait 14, 15 et 16 ans. Hein. Beaucoup de mal à croire ça.
Vous aviez des copains juifs à l'époque ?
J'avais des copains juifs, bien entendu, à l'école, j'allais au lycée Voltaire, je sortais d'un collège religieux, je ne savais pas qui était Voltaire, hein. On ne m'avait jamais cité son nom, je l'ai vite appris. Mais cette stupéfaction, cette adolescence, que 14 ans, qui correspond à la fin de la guerre, cette atmosphère-là, qui peu à peu, en 2 ou 3 ans, va devenir Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'est-à-dire que le centre du monde va devenir Saint-Germain-des-Prés. Le Lorienté, Claude Luther, Jean-Paul Sartre, le Café de Flore, etc., que j'ai eu la chance de fréquenter. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais écrire un jour.
Puis vous faites des études littéraires et d'histoire. Et
J'étais normalien, oui. Ouais. J'ai réussi le normal supérieur, ce qui évidemment me donnait la possibilité d'abord de toucher un peu d'argent, on était payé, et ensuite, plus tard, d'être professeur. Et quand j'étais à l'école, j'ai commencé à publier des romans, un ou deux romans. Jacques Tati avait un contrat avec Lafon pour tirer 2 romans des vacances de Monsieur Hulot et de mon oncle qui était en cours de finition. Et Lafon a organisé un petit concours, j'ai écrit un chapitre des vacances de Monsieur Hulot et j'ai gagné. C'est comme ça que j'ai rencontré, je suis allé frapper à la porte de Tati la première fois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hier, Je vous assure, c'est hier. Les vacances de Monsieur Hulot, le livre s'est encore vendu une fois de plus dans un pays asiatique, je ne sais plus lequel.
Bravo.
Il était illustré par Pierre Hédex.
À 26 ans, vous partez faire votre service militaire.
Oui, ça c'est le grand drame de notre génération. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez fini vos études ou presque, vous avez déjà publié vos livres, vous devez partir faire la guerre, vous ne pouvez pas être soldat. Et, attention, 29 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, dans la moitié en Algérie. Ça a été pour moi une période que j'envisageais, j'étais marié déjà, que j'envisageais avec terreur. Et puis, bon, on se fait à tout. J'ai pris des notes sur l'Algérie, j'ai ensuite écrit un livre sur l'Algérie, La paix des braves, et en plus tard encore, j'ai fait le seul film, j'ai écrit, avec le commandant Azdine. Il faut savoir qui était, et qui est toujours, il est toujours vivant, le commandant Azdine, chef de la Wilaya 4, notre plus terrible adversaire, Kabyle, bien entendu, avec qui je suis devenu un frère. Nous sommes maintenant amis. J'étais à Alger il y a 2 ans. On se tombe dans les bras l'un de l'autre. Je pourrais vous montrer des photos, je les ai sur moi. Et il m'appelle mon frère. Nous avons fait ensemble le seul film, c'était La Guerre, le seul film qui ait été entièrement tourné en Algérie sur la guerre, financé et tourné par les deux pays, la France et l'Algérie, autour de l'histoire très simple, c'est un village que veulent conquérir les Fellaga et les Français, que veulent rallier les Français. C'était ça l'histoire avec beaucoup d'éléments autour. 2 soirées, c'est passé à la télévision française, ça a eu le grand prix au FIPA et ça a disparu. Le film est disparu, il n'est jamais passé en Algérie. Ça veut dire que les deux gouvernements, français et algérien, savent qu'il y a dans ces films des choses qu'ils ne veulent pas montrer.
Alors attendez, ce film s'intitule « C'était la guerre ».
C'était la guerre. Alors,
il n'est pas en DVD, il n'existe nulle part.
Il existe, la preuve. Cette année, j'ai eu pour la première fois, et c'est un honneur considérable, une rétrospective au MoMA de New York, au Musée d'Art Moderne. Ils ont réussi à retrouver ce film, qu'ici en France, à l'INA, on ne retrouve pas. Il est caché, il est clandestin. Alors, ils l'ont retrouvé et ils l'ont montré à New York.
Il suffit donc de passer un coup de fil au MoMA de New York, voilà, récupérer la copie.
Exactement.
On le sort en DVD. Oui, vous revenez en parler sur cette antenne.
Exactement.
Non, c'est vrai.
Et c'est un très bon film. C'était Maurice Feldwick, qui hélas est décédé il y a 2 ans, qui était un merveilleux metteur en scène. Qui était le metteur en scène du côté français, et Ahmed Rajdi du côté algérien.
À cette époque, quand vous êtes mobilisé en Algérie, vous avez quand même le temps, alors que je suppose que, en tout cas moi, j'aurais sans doute réagi comme ça, j'aurais eu peur, et je pense que vous aviez peur aussi, vous aviez quand même le temps d'écrire, d'entretenir une correspondance avec Pierre Hétex, d'échanger des gags. En fait, vous écrivez des blagues aussi par téléphone, sans doute, pour tenir le coup.
On cherchait des gags par correspondance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de Boussa Hada à Paris. J'écrivais aussi une lettre par jour à ma femme, et à la fin de la guerre d'Algérie, nous avons pris ce gros paquet de lettres, ma femme et moi, et nous sommes allés le jeter dans la Seine. Nous voulions oublier tout ce qu'on s'était dit.
J'ai malheureusement pas lu, avant cette émission, votre livre, La paix des braves, mais...
Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faisiez pendant ces 15 mois?
Alors, j'étais normalien, le colonel qui commandait un immense secteur, et qui était d'ailleurs un brave homme, c'était un catholique breton, tout traditionnel, m'a pris comme secrétaire particulier. J'avais autour du cou une petite clé qui ouvrait une armoire secrète dans laquelle se trouvaient les dossiers de tous les officiers du régiment. Et tout ce qu'ils avaient fait. Et ils savaient, les officiers, que j'avais cette clé. Donc j'étais le secrétaire du colonel, je le suivais partout, je rédigeais sa correspondance, etc. C'était ça mon rôle principal. Et je l'accompagnais en opération quand il y allait, et j'essayais de tirer le moins possible.
Mais vous,
on tirait quelquefois pour se distraire. C'est-à-dire on faisait des exercices de tir, voire de tir de mortier, parce que j'étais sergent, donc j'avais... Je frimais. J'avais une Jeep, moi, que je conduisais, une ceinture et un Colt dans la ceinture. Vous voyez, ça, c'était... C'était comme dans les westerns.
Mais vous n'avez tiré qu'aux entraînements ?
Oui, qu'aux entraînements. Oui, je n'ai jamais tué personne. Jusqu'à aujourd'hui.
Nova Book Box, longtemps je me suis couchée de bonne humeur.
Thème de Borsalino, signé Claude Bolling en 1970 pour ce film de gangster signé Jacques Deray avec Delon et Belmondo dans les complets cintrés sous les jolis chapeaux de feutre mou, adapté du roman Bandits à Marseille, d'Eugène On refait le match Saccomano, avec un scénario signé par Deray lui-même en compagnie de Claude Sautet, Jean Co et mon invité d'aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie du scénariste, dramaturge, traducteur et acteur occasionnel Jean-Claude Carrière pour voyager à travers plus de 6 décennies d'écriture grâce à son livre intitulé Atelier au pluriel, disponible aux éditions Odile Jacob. Jean-Claude, peut-on maintenant parler d'un certain Benoît Becker ?
Ah, ça c'est un vieil ami. Et vous savez qu'il est toujours là ?
Je sais qu'il est toujours là.
Et non seulement là, mais il vient d'être nationalisé anglais.
Quoi ?
Mais oui. Alors, quand j'étais étudiant, j'avais besoin d'argent, comme tous les étudiants, et grâce à Guy Bechtel, un de mes meilleurs amis, j'ai été présenté à M. Decaro, qui dirigeait les éditions du Fleuve Noir, et qui cherchait des auteurs pour composer des romans populaires. Alors, il y avait toute une série de... Il y avait la série policier, la série criminelle, etc. J'ai choisi la série Angoisse. Et dans la série Angoisse, j'ai décidé de ressusciter le monstre de Frankenstein, qui pour moi a toujours été un personnage assez mythique, d'autant plus qu'il a été inventé par une très jeune femme.
18 ans, Marie Shelley.
Oui, Marie Shelley, oui, mais qui venait de perdre un enfant.
Absolument.
C'est donc, j'ai pris ce personnage et j'ai fait comme s'il était toujours vivant aujourd'hui. C'est comme s'il était l'incarnation du mal, vous voyez, un peu partout. Et j'ai écrit 6 livres avec les aventures de ce monstre que je signais Benoît Becker. Pourquoi Benoît Becker ? Parce que c'était déjà... Brigitte Bardot était déjà à la mode. B.B. Benoît Becker. C'était un argument, je crois, de l'éditeur.
Les romans sont ressortis il y a 3 ans environ aux éditions French Pulp. Ouais, hein, j'en ai lu plusieurs fois.
C'est sorti en anglais aussi, ça a été traduit.
D'où la nationalisation
anglaise. Oui.
J'en ai lu plusieurs fois des extraits dans cette émission. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que ces romans, vous les écriviez à la chaîne, en parallèle de vos études, à chaque fois en une douzaine de jours, en changeant de pays à chaque fois, l'Écosse, les Alpes autrichiennes, le port d'Anvers, que des endroits que vous ne connaissiez pas.
Tiens, vous en savez des choses sur moi.
En vous efforçant de glisser au moins une bonne scène par livre.
Bonne scène. C'est-à-dire, ce que j'appelle une bonne scène, c'est une scène qui pourrait faire une très bonne scène de cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile d'écrire
fil de la plume.
Il lança un regard terrifiant vers le fond de la vallée, et là, évidemment. Mais une scène que l'on pourrait, dans un budget raisonnable...
Tourner,
voilà. Ça, il y en a une dans chaque livre, je crois, j'espère.
Cet atelier Frankenstein vous a permis de découvrir, comme dans toute littérature populaire, des règles invisibles, des constantes exigées, des conflits redoutables, des clichés acceptables et d'autres à éviter. Quels exemples aussi vous pourriez nous donner à ce sujet? Le souvenir de ces difficultés, de ces contraintes?
Le problème de la créature, hein, quand on crée un personnage qui n'est pas tout à fait humain, c'est précisément son humanité. Quelle part d'humanité il faut donner au personnage de Frankenstein? Vous voyez, c'était déjà le cas dans les films. Le second film, La fiancée de Frankenstein, est un chef-d'œuvre. Il est meilleur que le premier. Précisément parce qu'il y a une femme qui réagit au personnage qu'on veut lui imposer. Et qui déclenche chez lui une amertume, une tristesse, enfin absolument pathétique. Non, ça c'est ça le plus important, c'est qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui cesse d'être artificiel. Le livre tout entier est artificiel, mais qu'il y ait un moment qui vous touche à travers les pires fictions. C'est le cas aussi des films de science-fiction. Si dans un film de science-fiction se passant dans d'autres planètes, il n'y a pas un moment qui vous touche vous directement dans votre vie privée, personnel, avec vos femmes, excusez-moi, vos enfants, enfin tous les problèmes de votre vie de tous les jours, c'est raté.
Oui. Ce qui était déjà présent en fait dans le texte de Mary Shelley, dans le Frankenstein original de 1818, c'est quand il comprend qu'il est rejeté, quand il a appris le langage, il est rejeté pour sa difformité, pour son l'horreur originelle puisqu'il est composé de morceaux de cadavres, il y a déjà une dimension humaine, philosophique, émotionnelle très très forte.
Très très forte, et c'était d'autant plus sensible dans le deuxième film, dans la fameuse scène de l'aveugle, parce que l'aveugle est le seul qui ne voit pas sa difformité. Et donc, il a une scène absolument paisible où l'aveugle le fait manger, le reçoit, etc., parce qu'il ne le voit pas tel qu'il est.
I cannot see and you cannot speak. Is that it? If you understand what I'm saying, put your hand on my shoulder. That is good.
Même quand on écrit l'histoire d'un monstre cruel, affreux, implacable, impardonnable, c'est nous. Il y a une part de nous forcément dedans. Chacun de nous, à un moment donné, a rêvé d'être un monstre. Et certains l'ont été. Pas moi, mais ça peut venir.
Parlons maintenant de monstres humains. Toujours dans votre livre Atelier, vous détaillez la difficulté d'un exercice pratique. Écrire ce que vous appelez les dialogues indirects. En citant le film La Piscine de Jacques Doré en 1968, pour nos auditeurs qui non plus n'auraient pas vu ce film avec Alain Delon, Romy Schneider, Jeanne Birkin et Maurice René, c'est l'histoire d'un crime apparemment gratuit en été dans une belle demeure, mais il vous fallait faire en sorte que les personnages ne parlent jamais de la situation qui s'envenime et qui conduira au meurtre. Ne jamais parler de ce qui oppose ou ce qui les oppose, qui les rapproche.
Ce qui serait devenu un mélodrame. Au moment où on a fait La Piscine, Jacques Doré, que j'aimais beaucoup, venait de tourner un film avec Michel Audiard. Et il m'a dit cette chose que je n'ai jamais oubliée. Tu sais que j'aimais beaucoup Michel Audiard, on a des très copains, hein, je ne discute pas son talent. Il m'a dit, tu sais, quand tu tournes un film d'Audiard, les mots sont les vedettes. Tu es obligé de tourner, tu es prisonnier des mots. Que tu les filmes sur celui qui les prononce ou sur celui qui les écoute et les entend. Tandis que toi, si moins tu me mets de dialogue, plus tu m'obliges, moi, à faire de la mise en scène et à avoir de l'imagination. Partant de là, et me souvenant d'une conversation avec Truffaut, où Truffaut m'avait dit « N'oublie jamais que dans Casque d'or de Becker, un film que nous aimons tous beaucoup, il y a 7 pages de dialogue. » Alors, j'ai fait la même chose, j'ai serré au maximum pour la piscine, qui est en plus c'est difficile, c'est un huis clos en plein air, mais entre 4 personnages, plus un policier. Et si on élimine les phrases du policier à la fin, la piscine, il y a 9 pages de dialogue, c'est tout. Tout le reste est fait de regards et, comme vous le disiez, de dialogue indirect.
Toujours ces réveils difficiles ?
Ouais, plus que jamais.
Tu es une petite nature.
Je sais, tu me l'as souvent dit.
Parce que je m'intéresse à toi, normal. Et ce mariage, c'est pour quand ? J'espère que je serai témoin.
Le dialogue indirect, c'est quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, mais on ne le lui dit pas directement. Il veut, Maurice René veut, à un moment donné, rappeler à Alain Delon qu'il a été l'amant, lui, de Romy Schneider dans le temps. Et ils sont en train de manger chinois. Et Maurice René dit, ce qui est formidable, c'est les restaurants indonésiens d'Amsterdam. Il se tourne vers Romy, lui dit, tu te rappelles ? Ce « tu te rappelles » est un coup de poignard pour Alain Delon. Vous voyez, c'est uniquement comme ça que je voulais écrire le film.
Petite astuce que vous donnez aussi dans votre livre, quand on doit écrire une scène dialoguée, vous vous imaginez, en 1925, du temps du cinéma muet, avec seulement 3 cartons, à votre disposition. Ouais. Et vous vous dites, quelles sont les phrases indispensables que je dois écrire sur les cartons qui apparaîtront pendant la scène ? Les mots qu'aucune image ne peut remplacer. La dernière fois que vous avez fait ça, vous avez pensé à ça ?
Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ? Vous avez tout dit.
J'aimerais un exemple pratique. La dernière fois que vous avez utilisé cette technique dans un film, dans une scène d'un film.
Oui, il doit y avoir longtemps, parce que je réduis toujours le dialogue au minimum. Mais c'est vrai que c'est très très utile de savoir quels sont les mots indispensables. Les phrases desquelles on ne peut pas se passer, sinon la scène n'a pas lieu. Vous voyez, et y compris dans la piscine. Y compris dans la piscine où c'était un peu le cas. Dans chaque scène, quelle est la phrase de laquelle j'ai absolument besoin. Sinon, le film n'avance pas, on n'y comprend rien. Et c'est un exercice que je recommande à beaucoup de jeunes. Vous savez que j'ai dirigé 100 d'ateliers un peu partout dans le monde. J'ai la chance de pouvoir le faire en 3 langues. Donc, je recommande toujours ça. C'est ça et d'autres choses, bien sûr. Mais ces ateliers, c'est ce qui m'a été le plus utile de tout. Parce que vous réunissez 20 ou 25 jeunes cinéastes. Il faut qu'ils aient déjà une certaine expérience, qu'ils aient 20, 23, 25 ans. De tel ou tel pays, que ce soit les États-Unis, le Venezuela, la Chine, je l'ai fait à Pékin, Israël, etc. Et vous leur demandez, un après l'autre, de donner le point de départ d'une action. Ouais. Et ensuite, tout le monde travaille ensemble. Et moi, je dirige un peu la direction générale du travail, jusqu'à ce qu'on arrive à la possibilité, ou pas, d'un film. Ça, c'est tout à fait passionnant. L'atelier, quand vous passez une semaine dans un pays à travailler sur une série d'ateliers, vous en savez plus que n'importe quelle enquête journalistique.
Dans ce souci d'épure, savoir raconter une histoire avec le moins d'éléments possible, justement pour que l'imagination travaille au maximum, oui, et qu'on soit capable de faire du beau cinéma, au niveau du récit, vous avez un maître, Tchekhov, dont vous avez longtemps eu des livres dans votre poche.
Pendant des années, j'avais ces œuvres pas théâtrales, ces œuvres romanesques dans ma poche. Et j'ai toujours adoré Tchekhov. Je trouve qu'il y a chez lui une qualité d'émotion qui s'arrête à un certain niveau, qui n'est pas du tout mélodramatique, qui n'est pas du tout emphatique.
De Tchekhov, vous aimez les esquives, les attentes, la parole qui se refuse.
Oui, j'analyse à un moment donné une scène de La Cerisée où il n'y a vraiment que des mots comme le thermomètre est cassé, il fait plus froid que l'année dernière. Et tout ce qui se passe entre ces mots est extraordinaire.
C'est encore des dialogues indirects comme
c'est
dans la piscine.
Des dialogues indirects, absolument, dans la piscine. Tout le monde s'attend. Parce qu'on s'attend à ce qu'il déclare sa flamme, qu'il déclare à la fille qui est là, depuis le début, on sait qu'il devrait l'épouser. Il n'ose pas, à la fin, il ne le fera pas. Et ça, c'est une scène, c'est un des plus grands moments de l'histoire du théâtre. Ça dure une page.
Tchekhov conseille, le mieux est d'éviter toute description d'un état d'âme. Il vaut mieux essayer de le rendre compréhensible par les actions du héros.
Oui, bien sûr, naturellement. Si je suis en face de vous et si je me dis, écoutez, notre conversation commence à durer, vous ne trouvez pas? On commence à s'ennuyer, c'est la barbe. Moi, j'irais bien boire un coup, comme ça. Quel intérêt ça peut avoir, hein? Mais si je vous dis, alors, posez-moi une question intéressante.
Là, je comprends que vous êtes barbé.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez, c'est très souvent le cas. Il y a des bavardages dans des films, mais qui sont uniquement là pour remplir des blancs, pour rien. Il faut. C'est un grand exercice d'assaise, le dialogue de cinéma, de se débarrasser de ce de quoi on n'a pas besoin. Par moment, il faut une tirade. Par exemple, dans Danton.
Danton, le film Danton,
fin,
vous avez
Danton,
scénarisé.
De Vajda. À la fin, Danton passe en jugement et il comptait beaucoup sur sa voix, qui était très célèbre, il était très très éloquent, pour être gracié par le tribunal révolutionnaire. Et au cours de cette plaidoirie, il a perdu sa voix. C'est vrai, c'est
fait historique.
Ouais. C'était phénomène historique. La façon dont Gérard Depardieu le fait, c'est extraordinaire.
La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il, s'il s'arrête un jour? Je croyais pouvoir freiner la tempête de la révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé? Me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la révolution, ils en ont oublié la révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle, plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien.
Danton, tu t'es trahi. Trahi! Seul un comploteur, un ennemi du gouvernement, peut insulter ainsi le tribunal du peuple.
Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux. C'est le gouvernement.
Arrêtez de penser.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Goodbye, baby, you're driving me crazy. You thought you had debated, but I was infatuated.
Goodbye.
Things ain't what they used to be. You can't do a thing for me.
So long.
You know I found a
new love.
Yes, I found a
sweet love. So long.
I found me.
Good love.
Yes, it's a
true love. So long.
See, things ain't what they used to be. You can't do a thing for me.
So long.
Oh.
Me so long.
Oh,
sure thing with me. I knew my day was coming when you started running now.
Goodbye.
Every dog has a day, now it's your time to pay.
Goodbye.
Things ain't what they used to be, you can't do a thing with me.
So long.
I knew you were cheating, but it wasn't me to beat now.
Goodbye.
I ain't gonna cry no more, cause I'm gonna let you go.
Goodbye.
Things ain't what they used to be, you can't do a thing with me.
So long.
Bye, So Long, Ike et Tina Turner, pied au plancher en 1965, avec le crépitement du 45 tours, chanson tirée de la bande originale du film Taking Off, réalisé par Milos Forman en 1971, avec au scénario mon invité d'aujourd'hui, Jean-Claude Carrière, à qui je dis goodbye, mais de manière tout à fait temporaire. Car l'envie de poursuivre avec lui cette conversation basée sur son livre Atelier, disponible aux éditions Edith Jacob, et qui revient sur 65 ans d'écriture, en compagnie des plus grands metteurs en scène de théâtre et de cinéma, cette envie est à peu près irrésistible. C'est pourquoi je lui donne rendez-vous, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, chères auditrices, en 2020, le dimanche 12 janvier, toujours à midi, pour la suite de ce dialogue. Nous parlerons de son travail surréaliste de très longue haleine avec Louise Buñuel, mais aussi du Mahabharata, ce poème épique indien, long comme deux fois les œuvres complètes de Balzac, que Jean-Claude Carrière aura mis 11 ans à traduire. Nous parlerons aussi d'un dîner qu'il a vécu avec Hitchcock, John Ford ou Billy Wilder, tout comme de ses scripts pour les Garrel, père et fils. Cette émission a été réalisée par Sullivan Clabot avec l'aide de Tristan Guérin, programmation musicale Michael Lio. Je vous souhaite à toutes et à tous un fort joyeux Noël, puisque c'est imminent, semble-t-il, ainsi qu'un réveillon tonitruant, sensuel et imprudent. Je vous embrasse avec passion. Merci pour votre écoute si attentive au fil des années qui commencent et inévitablement se terminent. À ce propos, j'aimerais avoir votre avis sur ce projet de jingle que nous vous préparons pour l'année prochaine avec Sullivan. Un jingle featuring Camille et Catherine.
L'accueil des marguerites.
Quand lui se caresse la bite, c'est un classique. C'est un classique,
c'est un classique de la littérature.
Classique, classique, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Classique et indémodable, classique et éternel.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.